Bienvenue sur Radio Vaillant, sur la clé des ondes.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant, la radio qu'on va entendre tout le temps.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Vaillant, une émission créée et produite par les élèves du collège Édouard Vaillant. Pour cette dernière émission de l'année, on vous présente un programme bien chargé. On commencera notamment avec une chronique sur l'actualité avec Alice, un agenda des journées mondiales, on parlera également du concours Castor avec Rosalie et Emma, et puis on continuera avec des chroniques sur les guerres, les mythes et les légendes. Enfin, Augustin et Ryan vous présenteront une recette spéciale et on terminera l'émission en poésie. Merci d'être avec nous sur Radio Vaillant et merci d'écouter La Clé des Ondes.
Radio Vaillant.
Et pour commencer l'émission, on écoute Alice qui va nous parler de ce qui l'a marqué depuis le début de l'année 2024.
Eh bien oui, tout d'abord nous allons commencer avec l'année 2024. Comment elle a débuté ? Alors elle a débuté avec la démission de la première ministre Elisabeth Borne au début du mois de janvier, précisément le 8 janvier 2024, suivie de l'arrivée de Gabriel Attal, qui a quitté le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et nous finissons avec le droit à l'IVG qui a été
inscrit dans la Constitution française.
Oui,
c'est
le 4 mars 2024, qui consiste à la liberté garantie des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Merci Alice.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant, la radio qui ne coule pas.
De l'actuel agenda, il n'y a qu'un pas. Bonjour les filles.
Bonjour, bonsoir. Pour commencer, munissez-vous d'un carnet de notes ou de votre téléphone. Puis tendez bien grand vos oreilles et préparez votre agenda. On commence par Mathilde avec le mois d'avril.
Même s'il n'y a aucune véritable explication, les origines du poisson d'avril remonteraient au XVIe siècle. À cette époque, l'année ne débute pas en même temps pour toutes les régions. Pour certains, elle débute au printemps et pour d'autres, à Pâques. En 1564, le roi Charles IX décide que le 1er janvier sera le premier jour de l'année dans toute la France. Mais la nouvelle met du temps à se propager et les gens continuent de s'offrir des cadeaux pour fêter la nouvelle année, car ils se croyaient encore au début d'avril. Cette date correspond également à la fin du carême, où les chrétiens s'offrent du poisson. Alors, pour se moquer de cette erreur, ils s'offrent de faux poissons. Et cela est très vite devenu une coutume. La journée du Lanzac se célèbre le 25 avril. Chaque année, cette date correspond à l'anniversaire du débarquement des soldats néo-zélandais australiens. Sur la péninsule de Gallipoli en 1915, des milliers de personnes ont perdu la vie dans la campagne de Gallipoli, dans l'Empire ottoman. 87 000 Turcs, 44 000 hommes de France et de l'Empire britannique, dont 850 000 Australiens. Parmi eux se trouvaient aussi 2 779 soldats néo-zélandais. Cela a peut-être conduit à une défaite militaire. Pourtant, pour de nombreux Néo-Zélandais, à l'époque et depuis, le débarquement de Gallipoli signifie le début de quelque chose d'autre. Un sentiment que la Nouvelle-Zélande avait un rôle en tant que nation distincte.
Puis on va continuer avec Lina qui va nous présenter le mois de mai.
Tout d'abord, il y a la Journée mondiale du rire, qui se déroule le 5 mai dans le monde entier. Elle a été initiée en 1998 par un auteur indien, inventeur du yoga du rire, qui inspire à la paix mondiale par le rire. La Journée mondiale du rire est l'occasion de réunir tous les rieurs et de réaliser le plus grand éclat de rire de France, souvent en l'honneur d'une personnalité recevant un rire d'or, pour la remercier d'avoir fait connaître les bienfaits de la joie de vivre. Le 5 mai, c'est aussi la Journée internationale de la sage-femme, une manifestation instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992 a été mise en place afin de rappeler le rôle central de cette profession. Et enfin, avez-vous déjà entendu parler de la journée du coloriage ? Elle a lieu le 6 mai dans tous les pays du monde. Et devinez quoi ? Colorier, c'est aussi inventer, associer des couleurs et donc augmenter sa créativité.
C'était Jessica, Lina et Mathilde. Merci de nous avoir écoutés et restez avec nous sur Radio Vaillant.
Merci beaucoup pour ce rendez-vous d'actualité des Journées mondiales. On va continuer ensuite avec Emma et Rosalie, un rendez-vous annuel dans les collèges d'un peu partout en France. Bonjour Emma et Rosalie.
Bonjour. Donc vous allez nous parler d'un reportage que vous avez fait la semaine dernière, c'est ça ?
Oui.
C'était un reportage sur quoi ?
Sur le concours Castor.
Donc c'est un concours qui parle des sciences, c'est ça ?
Oui, des maths et de la technologie un peu.
Donc c'est plus de 3 millions d'élèves qui participent dans le monde, c'est ça ?
Oui.
Et donc vous, vous y êtes allé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez fait votre reportage ?
On a demandé à des gens comment ça s'était passé. Mm-hmm. Oui, on a interviewé Léonie et Evan. Et ils étaient...
Premier et deuxième du collège.
Oui, des cinquièmes.
Et donc, vous avez ressorti du coup un son pour nous, pour la prochaine émission qu'on fera dans Radio Vaillant, c'est ça ?
Oui.
Ok, super. Oui. Bah, écoutez, on réécoutera ça la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre participation. Et on va passer à l'interview de celles et ceux qui ont voyagé à Bruxelles. Je lance un jingle, le temps qu'elles nous rejoignent.
Alors bonjour, je m'appelle Élise Bonnel et je suis en 4e.
Bonjour, je m'appelle Satsuki et je suis en 3e A.
Bonjour, je m'appelle Lina et je suis en 3e C.
Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis également en 3e C.
Donc vous êtes allée en Belgique à Bruxelles la semaine dernière, un voyage organisé par le collège. Cette année, c'était une année d'élection européenne où on élit des représentants, c'est ça ?
Oui.
Les députés européens, à quoi servent-ils ? Qui c'est qui veut répondre ?
Si je me souviens bien, les députés européens servent à voter des lois pour les faire passer ensuite... faire voter des lois dans la Constitution européenne pour ensuite les faire passer vers les autres nations et donc faire voter les lois qui sont dans l'Union européenne pour maintenir l'équilibre dedans.
D'accord. Est-ce que vous en avez rencontré, du coup, des représentants ?
Oui.
Satsuki ?
Je ne me rappelle plus de son nom, mais il devait remplacer une députée qui n'était pas là. Marie Toussaint qui n'était pas là et par contre je ne me rappelle plus du prénom du député.
C'était...
Bon c'est pas grave après, on pourra,
écouter Dupas, votre... Dupas je crois, machin Dupas.
Est-ce que ça vous a donné envie de voter ?
Pas tellement, enfin ça ne m'a pas vraiment attiré, si je peux mettre des guillemets, mais voilà.
Vous avez trouvé ça important ?
Oui, important.
On a trouvé ça intéressant aussi, mais... Enfin, donner l'envie de voter, je ne sais pas si c'était vraiment le but.
D'accord, ok. C'était quoi, à ton avis, le but de
Le but de était d'expliquer... le but de la rencontre avec le député, c'était d'expliquer surtout quel était son rôle et en fait, à quoi on sert, en fait.
D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus moins sérieux ? Il paraît que vous êtes allé peut-être visiter un musée,
Ou la maison européenne, je crois.
Lina ?
Oui, on a visité un musée, oui, la Maison européenne, où là-bas, on a pu faire... on a appris beaucoup de choses.
Sur...
Sur l'Europe.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre voyage ?
À part les 7 heures de train...
Bruxelles, ça vous a pas marqué ?
Ah, si, moi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, j'ai beaucoup aimé la grande place. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans toutes les rues... Enfin, ils ont un peu gardé ce qui était avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours les briques sur les passages piétons, et ça, ils n'ont pas changé en mettant du béton. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Et il y a beaucoup de fresques et de toutes petites ruelles. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'était vraiment très, très beau. Même s'il ne faisait pas très, très beau. Le premier jour, ça va, il y avait du soleil. Mais à partir du deuxième, il faisait un peu moins beau, mais...
C'est surtout que à Bruxelles, c'est une ville qui est connue pour la bande dessinée et ils ont mis hommage sur le fait de la bande dessinée en faisant déjà un musée entièrement dédié à ça, à la place d'anciennes maisons de couture ou je sais plus très bien, et aussi toutes les rues en fait. La plupart des rues avaient des images de bande dessinée, des petites références à Tintin, Gaston Lagaffe et d'autres trucs comme ça, enfin d'autres personnages comme ça dans la pop culture
belge. Merci beaucoup les filles pour nous avoir témoigné votre voyage. On va maintenant passer aux histoires de guerre de Émilie qui va prendre place sur le plateau. Et bonjour Émilie, comment vas-tu ?
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Histoire de guerre, je ne vais non pas vous raconter une histoire de guerre, mais une biographie. La biographie d'un fils d'un chef nazi du Troisième Reich. Je vais vous faire la biographie de Martin Bormann Jr., l'enfant surnommé Krunzi, des formations de Kronprinz, le prince héritier, prédestiné au rôle du parfait nazi qui deviendra plus tard tout ce que son père détestait. Martin Bormann Jr., de son nom complet Martin Adolf Bormann, voit le jour le 14 avril 1930 à Grünwald, en Bavière. Son père, Martin Bormann, est l'un des plus grands fervents admirateurs d'Adolf Hitler. D'abord employé du bureau nazi, il s'est élevé dans la hiérarchie nazie et a gagné la confiance du Führer grâce à son dévouement, sa rigueur et son obéissance. Bormann est un bureaucrate, un gestionnaire, le secrétaire particulier d'Adolf Hitler. C'est un homme de l'ombre et pourtant un rouage clé du Troisième Reich. Ainsi, depuis sa naissance, Martin Bormann Jr. est placé sous le signe du nazisme. Un de ses prénoms, Adolf, est un hommage à son parrain, Hitler. Il a grandi à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, à quelques minutes du Berghof, la résidence privée du Führer. Hitler a chargé Bormann de rénover sa propriété. Les Bormann deviennent donc les voisins directs du Führer. La confiance s'installe, à tel point que Martin Bormann gère les finances privées du Führer. À Berchtesgaden, Martin Junior et ses frères et sœurs grandissent dans un milieu déconnecté de toutes les réalités. Car le Berghof est une propriété de 700 km² qui est gardée en permanence par des SS. Les habitants du Berghof, surnommés les gens de la montagne, seuls Hitler, sa maîtresse Eva Braun, les plus fidèles dignitaires nazis et leurs familles y ont accès. En 1940, alors qu'il a 10 ans, Martin Junior, pour devenir un parfait nazi, Krunzi, le prince héritier, va intégrer la Reichsschule Feldafing, une école bavaroise du Reich, réservée aux privilégiés du régime, les enfants des chefs nazis. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, dans son internat, Martin Junior est abreuvé par la propagande et les récits de victoires militaires. On lui apprend que le Reich doit durer 1000 ans. Mais à peine 5 ans plus tard, tout s'effondre. Son enfance dorée s'arrête en 1945 en découvrant la réalité du monde, faite de feu et de cendres. Il s'enfuira et trouvera refuge dans une ferme haute perchée dans les montagnes autrichiennes, et où il se renommera Martin Bergmann. Il tira alors un trait sur sa vie en Allemagne. Dans sa famille d'accueil, il découvre la foi chrétienne, son premier contact avec la religion catholique, que son père haïssait tant qu'il décrivait comme une émanation de la culture juive. Les mois passent et le monde découvre les atrocités commises par le régime nazi. Martin Junior découvre le vrai visage de son père et son rôle dans le génocide. Son père, qui est d'ailleurs porté disparu, est condamné à mort en 1946 pour crime contre l'humanité au tribunal de Nuremberg. Martin Junior est frappé par les photos du camp de Bergen-Belsen. Il dévoile par la suite sa véritable identité au prêtre de sa paroisse. 12 ans plus tard, en 1958, il se fait ordonner prêtre à Innsbruck, en Autriche. Il rentrera dans l'ordre des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et travaillera au Congo, qui est en proie à une guerre civile de 1961 à 1965. Puis il y retourne en 1968 pendant quelques mois. En 1969, il fut victime d'un grave accident de voiture et fut soigné par une religieuse qui deviendra par la suite sa femme en abandonnant leurs vœux. Dans les années 1980, Martin Junior fait une rencontre qui va changer sa vie. Dan Barer, un psychologue israélien, cherche à comprendre comment les enfants des nazis ont surmonté la honte des crimes de leurs parents. Pour Dan Barer, ses enfants sont aussi des victimes, car ils portent en eux une culpabilité qui n'est pas la leur. En avril 1993, Dan Barer organise une rencontre entre les enfants des survivants de la Shoah et des enfants de chefs nazis. Martin Junior, âgé de 63 ans, y est convié. Pendant plusieurs années, il effectuera plusieurs voyages et participe activement à la réconciliation entre les enfants des victimes et des bourreaux. Mais en 2011, plusieurs accusations de violence et de harcèlement ébranlent l'Église catholique. Martin Junior n'échappe pas à ces accusations. Il est accusé par un ancien élève d'un internat catholique autrichien de l'avoir violé à l'âge de 12 ans, alors que Bormann y travaillait comme prêtre et maître d'école au début des années 1960. D'autres anciens élèves l'accusent de violence physique. Martin Bormann Junior, alors âgé et sénile, ne peut répondre à ces accusations. 2 ans plus tard, le 11 mars 2013, il s'éteint à l'âge de 82 ans. Toute sa vie l'aura vécu avec la peur que son père, toujours disparu, le retrouve, lui qui détestait ce que son propre fils était devenu. C'est ainsi que se termine l'histoire de guerre. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et que vous l'avez aimée.
Et tout de suite, on commence avec les histoires des mythes et légendes avec Satsuki et Élise. Bonjour Satsuki, bonjour Élise.
Bonjour.
Donc vous allez nous raconter votre chronique qui aujourd'hui est sur Méduse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Enfin, son commencement, comment elle est devenue.
On vous écoute alors.
Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chronique Mythes et légendes grecques présentée par Élise et Satsuki. Aujourd'hui, on vous parle d'une légende très connue, celle de Méduse. Tout commence à Athènes pendant la guerre qui oppose Poséidon et Athéna qui se disputent la ville.
Dans quelques-uns de ces sanctuaires se trouve magnifique jeune fille. Elle était éblouissante et se fit repérer par Poséidon qui commença à lui faire des avances qu'elle refusa. Car elle ne voulait pas enfreindre les règles du temple. Mais quelles règles, me direz-vous ? Bah, des règles un peu compliquées, on va dire. Là-bas, les filles qui travaillaient n'avaient pas le droit d'avoir des relations amoureuses, d'avoir des relations sexuelles, donc elles devaient être pures, vierges, et enfin de rien avoir comme relation avec un autre homme, enfin, ou une autre femme, mais bon, dans la mythologie, on va dire qu'il n'y a pas vraiment ce genre d'archétype. Le fait qu'elle refuse ses avances mit en colère Poséidon. Et celui-ci la viola une nuit, alors qu'elle travaillait dans le temple et qu'elle était seule, s'occupait de la statue d'Athéna. Et Athéna, qui est aussi une déesse, l'a vue, l'a remarquée, et est devenue folle de rage à tel point de la transformer en Méduse.
Après la transformation, la jeune fille devint laide. Avec des serpents à la place des cheveux, ses yeux avaient changé de regard et ils avaient maintenant le pouvoir de transformer les gens en pierre. Peur d'elle-même, plus tard, elle s'enfuit de la ville. On la retrouva dans le mythe de Persée qui est le héros de l'histoire et elle, le monstre. Après un terrible combat, il la tue en lui tranchant la tête avec laquelle il va transformer les ennemis en pierre. Et pour lui rendre hommage, Athéna grave une tête de gorgone sur son bouclier.
Merci beaucoup Élise et Satsuki pour cette histoire très intéressante. Merci beaucoup. Bonjour Augustin et Ryan.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Bien.
Bien. Aujourd'hui, vous allez nous parler de recettes ou plus particulièrement d'un plat, c'est ça ?
Oui, du cordon bleu. Du coup, l'origine du cordon bleu, il a été créé en 1818 à Brigue par un chef cuisinier d'un restaurant qui a été envahi par les soldats de Napoléon. Les vivres étant manquants, le chef décide de faire une recette avec des restes de viande mélangés à du fromage puis panés. Donc c'est ça l'origine du cordon bleu.
Le nom du cordon bleu vient de l'expression faire un repas de cordon bleu qui signifie faire un repas de grande qualité.
D'accord, donc c'est l'origine du mot.
Oui, exact.
D'accord, ok. Et donc vous êtes allé questionner le cuisinier du collège, non, il me semble ?
Oui, mais il n'a pas voulu nous en parler. Il a dit que... Enfin, que ben, c'était pas... Il préférait parler d'autres recettes.
D'accord. Oui. Donc c'était pas son plat favori.
Non.
Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter sur les cordons bleus ?
On aime ça. Mais sinon, non, c'est bon.
Vous en mangez fréquemment ?
Bah oui, des fois.
Ok, très bien. Eh bien, merci à vous pour votre participation. On se retrouve bientôt. Et pour terminer, on va finir en poésie avec Johan, pardon. Tu vas nous présenter un poème. Est-ce que tu peux nous dire lequel ?
Je vais vous présenter le poème de un peintre de José Maria. José Maria de Heredia.
Très bien, on t'écoute.
Il a compris la race antique aux yeux pensifs qui foule le sol dur de la terre bretonne, la lande race rose et grise et monotone où croulant les manoirs sous le lierre des hauts talus plantés des êtres combustibles. Il a vu les soirs tempétueux d'automne, sombre le soleil rouge en la mer qui est monotone, sa lèvre s'est salée à l'ambre des récifs.
Merci beaucoup Johan pour ce très beau poème. On remercie aussi toutes celles et ceux qui ont permis à cette émission de se créer. On remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cette deuxième émission du Club Radio Vaillant. Bravo à tous les membres du club et on vous dit à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur la clé des ondes.
Radio Vaillant !
Mathilde, Alice,
Rosalie,
Emma,
Lina,
Élise,
Émilie,
Augustin,
Ryan,
Anna,
Johan.
Radio Vaillant!
Swimming in my thoughts, don't let me drown.